Mais par contre, il était aisé de comprendre certaines choses. Par exemple, effectivement, le rapport qu'il peut exister entre les différentes filles de la famille. On sent qu'elles s'entraident beaucoup. Quand on est invité parfois dans la yourte d'une des filles, ensuite dans l'autre, on se déplace pour boire le thé dans l'une, on mange dans l'autre. Bref, il y a une solidarité des femmes au niveau des tâches à exécuter. On ne sait pas très bien quel lien de famille elles ont, si elles sont sœurs, belles-sœurs, nièces, ça c'est pas clair du tout. On ne sait même jamais très bien qui est la mère des enfants qui sont là, mais en tout cas on voit qu'elles s'entraident. Entre les femmes plus âgées et les femmes plus jeunes, on sent aussi qu'il y a une connivence. Des gestes magnifiques par exemple. Le dernier jour, lorsque nous sommes arrivés à nouveau au campement de Bolto, nous étions partis, nous nous avions pris nos chevaux, eh bien dans la tente, alors on nous accueille avec moult nourriture et il faut manger. Autrement, comme on vous le disait, si vous refusez une boisson, ça on n'en a pas eu très conscience, mais on sent bien qu'il faut manger ce que l'on nous offre. Eh bien pendant que nous mangions, la grand-mère tout à coup se met à plat ventre par terre sur le sol de la yourte et demande, je crois que c'est à sa fille, tout à coup de lui marcher sur le dos parce qu'elle avait mal au dos. Et alors on voit tout à coup ces jeunes femmes qui lui marchent sur le dos, au début légèrement, de plus en plus fort, elles se succèdent à deux sur son dos pour essayer de lui faire du bien. Georges viendra lui proposer une aspirine en se disant peut-être que c'est tout aussi efficace et peut-être moins douloureux. Mais visiblement, cette connivence de la grand-mère avec les jeunes femmes passe par des gestes aussi simples que celui de se faire du bien physiquement. On voit aussi que les grand-mères, par exemple, ont des tâches particulières. La grand-mère qui nous a accueillis un jour dans son campement, où nous sommes restés toute une journée de repos, nous avons fait la fête le soir, et puis le lendemain matin quand nous sommes repartis, alors qu'elle avait toute la veille au soir distribué les racks, le thé, le lait de vache, enfin vraiment nous accompagnant dans cette fête, on la retrouve le lendemain matin au moment de monter sur nos chevaux. Elle a une casserole à la main et on comprend très bien qu'il faut qu'on commence à partir et elle va asperger nos chevaux et nous-mêmes d'érac, de lait de jument. Et c'est une façon, faut-il dire, de nous bénir, en tout cas de nous porter chance en nous aspergeant de lait de jument d'érac. Et c'est cette même magnifique grand-mère qui m'accueillera quasi comme si j'étais une membre de sa famille, alors que deux semaines plus tard, nous retournons chez elle, plus qu'à quatre cette fois-ci, qu'elle me serre dans ses bras, qu'elle m'emmène dans sa tente, prépare une soupe pour notre petit déjeuner, jouera avec moi aux osselets, ira jusqu'à apprendre les mots en français qui des animaux que l'on retrouve dans le jeu des osselets, mouton, chèvre, cheval et chameau. Pour les dire en français, mor, teme, yama, ron, en mongol. Alors, cette grand-mère, elle a à la fois ses tâches de maintien de la tradition et puis en même temps, elle fait partie de la vie de la famille complètement. C'est elle qui fait à manger, c'est aussi elle qui participe aux fêtes. Alors les accouchements, je n'ai pas vu d'accouchement, mais par contre j'ai vu beaucoup d'enfants, des enfants qui sont les rois. Leur nom, qu'en est-il? Je ne sais pas, mais je sais en tout cas que chaque fois que je sortais mon petit carnet de route pour écrire mes impressions, eh bien les enfants se précipitaient pour voir ce que j'écrivais et qu'avec une joie immense, ils s'emparaient de mon crayon et inscrivaient leur nom, qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de peine à déchiffrer, bien sûr, mais prouvant ainsi qu'ils savent tous lire et écrire dès qu'ils en ont l'âge. Et on nous explique qu'effectivement, tous les enfants, même dans la steppe, vont à l'école jusqu'à l'âge de 13-14 ans, ils savent tous lire et écrire et le livre, le crayon, le papier sont des choses que l'on retrouve dans presque toutes les yourtes. Et les enfants sont les rois, les petites filles sont habillées de robes complètement fofolles par moments avec des rubans magnifiques dans les cheveux qui brillent des couleurs fantastiques. C'est ces robes de petites poupées quasiment et c'est évidemment assez étrange au cœur de cette steppe sauvage et désertique. Et puis, les petits garçons, souvent, bon, parfois cul nus, parfois avec un pantalon qui traîne, souvent avec un peu la morve au nez, et puis on renifle par-ci, on renifle par-là, et on vient découvrir ce que l'étranger amène de curieux avec lui. Et ces enfants sont sacrément curieux, effectivement, puisque très vite, quand on leur montre un objet, oui, alors ça c'est crayon, ça c'est mouton, ils apprennent à une rapidité effarante les choses en français que nous leur montrons, et surtout ont beaucoup de plaisir. On leur fait des petits pliages, on leur fait des dessins, ils adorent ça, et on redemande. Il ne faut pas être trop fatigué et avoir envie de faire une petite sieste adossée aux tapis de feutre qui sont à l'extérieur de la yourte. Quant à la maladie, enfin, comment dire, aux soins que l'on peut prendre des enfants, il semblerait que la mortalité infantile ait été très grande parmi les enfants en Mongolie. Nous n'avons eu qu'une toute petite expérience, non pas par chance de la mortalité infantile, mais de la maladie, dans un des campements où nous étions reçus, toujours ceux de la famille de Bolto. Eh bien, un petit gamin est malade, visiblement, il a la diarrhée. Il est vraiment à grenouiller, à groumer comme ça sur son lit. Sa maman essaye de le faire un petit peu rigoler, mais on sent qu'il est vraiment mal. Georges va chercher dans sa pharmacie quelques médicaments très simples, des lactéoles, de lactoferment. Et puis, par miracle ou par chance, ou tout simplement l'efficacité de ce médicament simple pour un gamin qui n'a pas l'habitude d'être bourré de médicaments, eh bien, le lendemain, l'enfant va mieux. Et le père va venir vraiment remercier Georges très cérémonieusement d'avoir aidé son fils à se sentir mieux. Donc vraiment des gestes très importants à l'égard de celui qui a contribué à la guérison de son fils. Voilà, alors la place de la belle-fille, le rôle des personnes âgées, ça, tout ça dit en très résumé, il y a des femmes magnifiques que nous avons pu rencontrer. On parle dans le texte de Jacqueline Thévenet, par exemple, des relations hors mariage. Eh bien là, un petit fait tout à fait anodin comme tel, mais qui illustre un tout petit peu ce propos. Dans une yourte où nous étions accueillis pour la pause au milieu de la journée, il y avait beaucoup de gens. Nous avions mangé à l'intérieur de la yourte, puis ensuite, en sortant, avec notre guide Tamir, qui était là pour nous faire un peu de traduction, surtout une jeune fille de 18 ans, d'Oulan-Bator, je lui demande de questionner une des jeunes femmes qui est là, qui venait de nous accueillir dans sa yourte avec son mari et ses deux enfants, d'essayer de lui demander justement un petit peu comment ça se passe au niveau du mariage, si elle peut choisir son mari, etc. Son maman un petit peu gênée par les questions que je pose. Et puis, alors j'insiste pas trop, je dis à Tamir de ne pas trop insister, visiblement ça la gêne. Et puis, quelques instants plus tard, on est tous agglutinés à regarder je ne sais plus trop quoi, on est serrés les uns contre les autres, et à côté de moi, cette même jeune femme qui me pousse du coude et me montre un gamin qui se trouve juste devant moi, coincé devant moi, pas du tout un des deux enfants qu'elle avait avec elle sous la yourte tout à l'heure, un autre bambin, elle me le montre, et puis elle fait un clin d'œil en direction d'un homme qui est juste à sa droite, qui n'est pas l'homme que l'on a vu sous la yourte non plus tout à l'heure. Et il était aisé de comprendre que le petit garçon qui est devant moi est aussi son fils et qu'il a été conçu avec l'homme qui est à sa droite, qui n'est pas son mari. Voilà comment je découvre que les relations hors mariage sont tolérées pour autant qu'elles soient discrètes. Alors voilà, ça c'était mon troisième volet de ma Mongolie, si je puis dire. Confrontée avec la Mongolie que décrit pour nous Jacqueline Thévenet dans son livre « Les Mongols » de Gengis Khan d'aujourd'hui, édité aux éditions Armand Collin. Alors ce sera mon dernier volet, mais que j'aimerais confronter encore une ultime fois. Mais cette fois-ci, pas tellement à ce que moi j'ai vécu, mais avec ce qu'ont vécu d'autres femmes en Mongolie. Ce sera par exemple l'expérience d'une Valaisanne, Catherine Varidel, qui est partie pendant 4 ans pour un immense périple qui l'a conduite depuis la mer Noire jusqu'en Mongolie, à dos de cheval. Une héroïne, comme dit par exemple une femme qu'elle a rencontrée dans un village du Kazakhstan, parce que c'est une femme seule, elle est à cheval, elle fume et elle est en pantalon. Chose très inhabituelle. Elle fera cet immense périple à cheval jusqu'en Mongolie et là, elle aura quelques événements qui vont se passer en Mongolie. Bref, elle dit des choses pas toujours très agréables sur la Mongolie, puis en même temps des choses magnifiques. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de cette façon qu'elle a de raconter sa Mongolie, d'autant plus qu'elle a décidé, visiblement, pour en tout cas le Nouveau Quotidien, dans lequel j'ai découvert son périple, de procéder de la même façon que notre carnet de route Regard au féminin, c'est-à-dire de confronter le carnet de route d'un voyageur dont elle a décidé non seulement de lire le contenu, mais de suivre exactement le périple. C'est Guillaume de Rubruck, qui est un moine, qui a fait ce même périple au XIIIe siècle. Et elle va suivre exactement son même chemin. Et dans son récit que j'ai lu, elle confronte aussi des extraits du carnet de route de Rubruck avec son propre voyage à elle. J'étais étonnée de te retrouver un petit peu cette même idée dans son périple. Alors, des extraits de son voyage à elle. L'extrait aussi des impressions que Caroline Puel, une journaliste du journal Libération, journal français, qu'a eu cette femme en visitant Oulan-Bator, où elle a eu l'impression que les enfants vivaient dans une misère terrible parce que la famille ne leur offre plus rien et qu'ils décident de monter dans le premier train et d'aller à la ville où visiblement la solitude les attend. Cette impression qui ne correspond pas tout à fait à celle que j'ai eue, en tout cas pas du tout sur le fait que la famille n'offre plus rien aux enfants dans la steppe et qu'ils prennent le premier train pour aller à la ville. Cet article m'a beaucoup étonnée du point de vue de son contenu. Donc voilà un autre point de vue à découvrir. Et puis j'aimerais donner la parole à certaines autres femmes qui, comme moi, ont fait le voyage mené par Georges et par Tchak et par Bolto ou par un autre guide en Altaï ou dans la steppe. C'est Armel, c'est Barbara, c'est Géraldine, c'est Pauline et d'autres qui, j'espère, nous raconteront un petit bout de leur Mongolie, elles aussi. Alors nous nous retrouverons dans 3 semaines pour cet ultime volet sur la Mongolie et j'espère bien qu'après cela, nous découvrirons le Yémen, par l'intermédiaire de Marianne qui part demain pour le Yémen. Et j'espère bien qu'elle nous fera partager son carnet de route et son regard au féminin sur ce pays confronté à des textes écrits sur ce pays magnifique qu'est le Yémen. Alors je vous propose, pour terminer notre remue-ménage d'aujourd'hui, et bien que nous partions sur les pas de ces femmes qui ont fait le blues, ces Women in Blues, comme ce CD magnifique nous les fait découvrir. Remue-ménage, Radio Zone, Onde Femme 93.8. I don't know what to do.
probably driving me mad. Don't even hear a bit of news from my home all alone. No wonder I'm feeling bad. It seems that all of the world is lonely as can be. Just as lonely as can be. Why did I start into roam? Back to that swanish river ways I will stray and pull the curtain on the certain land of cotton blue. I start to weep when the sun goes to sleep. I want to cry while the moon is on high. Feel so forlorn at the break of the dawn. Hate to see another day born. Birds in the trees sing their sweet melodies. Sun shining bright, still as dark as a night. I've never had any blues half so bad. Thank you.
can see you beat off the floor. My daddy don't knock no more. My little pig, don't tell me what you think. Long time making up your mind. I distinctly understand that you love another one. And how can your heart be
Alors, quelques magnifiques femmes dans ces premiers pas du blues américain. C'était Mamie Smith, Lucy Hegeman, Alberta Hunter et Sarah Martin. Pour terminer ce remue-ménage d'aujourd'hui, eh bien, d'autres voix de femmes magnifiques, tout à fait à l'autre bout du globe des femmes américaines. Et une autre forme de chanson, mais des voix superbes, c'est les Doni Zulana, les femmes de l'île. Et l'île en question, c'est la Corse. Ces femmes qui se battent contre la violence, contre les règlements de compte et qui demandent le retour de la paix de toute urgence dans leur île. Nous pensons à elles très fort dans ces moments très difficiles.
Bye.